C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant.
Depuis les Champs-Élysées,
sur Vivre FM.
En pleine COP 26 et ses débats sur l'environnement, nous recevons un business angel aujourd'hui. Pourquoi ? Quel rapport ? Eh bien, Valérie Boyer contribue au bien-être des océans en investissant, en soutenant des start-up qui agissent dans ce domaine. Comment ? Eh bien, on va en parler jusqu'à 13h30 sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre, c'est épatant
avec Carole Clémence.
Et nous retrouvons Valérie Boyer. Bonjour Valérie. Alors vous parlez très très près du micro, beaucoup plus près. Vous êtes business angel de start-up à impact positif sur l'écosystème marin. Tout le monde ne sait pas exactement ce qu'est un business angel. Rapidement, c'est quoi ?
C'est quelqu'un qui va simplement essayer d'investir soit de son temps, soit de son argent, soit les deux, pour essayer d'optimiser la probabilité de survie d'une société.
Oui, donc c'est votre argent ?
C'est mon argent, tout à fait.
Très bien.
C'est mon argent, et puis après, il y a d'autres moyens pour aider les sociétés. Et un de mes objectifs, c'est aussi d'essayer d'aller chercher l'argent des autres en leur expliquant que si on veut vraiment faire de l'impact, il ne faut pas attendre que les sociétés soient rentables pour investir dedans, mais il faut au contraire aller investir dedans le plus rapidement possible quand elles en ont vraiment besoin.
Oui, donc vous travaillez sur des startups à impact positif sur l'écosystème marin. C'est très précis. Il y a vraiment beaucoup de startups à aider.
Alors oui, il y a beaucoup de startups parce qu'en fait la mer touche énormément de secteurs. Donc si vous parlez du plastique par exemple, qui est un problème majeur aujourd'hui dans les océans, c'est évidemment quelque chose qui touche directement l'écosystème marin. Vous parlez de la nourriture. Aujourd'hui, pour que nous on ait une tonne de poissons dans notre assiette, il faut pêcher 3 tonnes de petits poissons pour les nourrir.
Oui.
Donc vous voyez bien que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc du coup, il faut innover pour arriver à trouver des solutions pour que dans les fermes aquacoles, ils puissent nourrir les poissons avec autre chose que du poisson.
Oui.
Et en fait, ça touche énormément de secteurs. Ça peut vous donner l'impression que c'est une niche, mais en fait, ça embrasse plus ou moins tous les secteurs. Et quand on sait que la mer crée énormément, enfin recycle énormément de CO2, vous avez besoin que l'écosystème marin soit optimal. Or, c'est plus le cas aujourd'hui.
Oui. On constate ça. Vous êtes engagée sur ce domaine depuis combien de temps, Valérie ?
Relativement peu de temps. C'est une décision personnelle que j'ai prise il y a un an et demi à peu près parce que je suis un passionné.
Plus près du micro.
Je suis passionné par la mer parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller vivre à Malte où je vivais près de la mer. Je pouvais nager régulièrement. Et puis, je me suis rendu compte que mon petit paradis s'est transformé au fur et à mesure en une déchetterie. Et voilà, avec mon fils qui a 8 ans qui est derrière, on a passé cet été à récolter du plastique dans la mer. Donc ça, c'est très triste. Il y a un sentiment d'écœurement qui doit saisir normalement tout le monde. J'ai deux autres enfants qui eux-mêmes sont devenus des adultes maintenant. Et j'ai pas envie de me retrouver sur leur lit de mort face à elles en me disant que j'ai pas pu contribuer positivement pour essayer d'améliorer les choses. Et puis il y a toutes les aujourd'hui, n'importe quel scientifique, vous regardez tous les résultats du GIEC et de toutes les analyses, c'est très difficile aujourd'hui de faire un déni de réalité et on est obligé d'accepter le fait qu'on doit en urgence avoir un impact positif sur les choses.
Oui. Alors, vous vivez à Malte. Est-ce que c'est ce qui vous rend aussi susceptible, aussi sensible à l'environnement ?
Je pense que ça a contribué à me sensibiliser parce que j'ai vu au quotidien la mer se détériorer. Et qu'au début, je ramassais des bouts de plastique dans mon maillot de bain, je les mettais dans mes poches et puis au bout d'un moment, j'ai acheté un filet. Et puis maintenant, en fait, je nage plus. Quand je nage, je ne regarde plus la mer. Je suis comme un éboueur. Je passe mon temps à récupérer des bouts de plastique, de papier, des détritus, voilà.
Oui. Et à Malte, c'est très pollué, particulièrement.
La Méditerranée, malheureusement, aujourd'hui, même quand vous arrêtez au milieu de la mer, en plein milieu de la mer, vous risquez de tomber sur des morceaux de plastique, des détritus, des flaques d'huile, c'est partout.
Oui, oui. Et donc, vous agissez, vous investissez dans des sociétés, ce sont de jeunes sociétés exclusivement ?
Alors, exclusivement les jeunes sociétés, puisque l'un des principaux problèmes qu'on a, c'est qu'on entend d'ailleurs beaucoup en ce moment des effets d'annonce de gros fonds d'investissement qui disent on va investir 100 millions sur l'impact, on va investir 50 millions sur l'impact. Mais en fait, ce sont des boîtes qui investissent dans des sociétés qui sont déjà rentables, qui ont déjà validé leur business model et qui n'ont plus de problématiques de survie, qui n'ont plus que des problématiques de croissance. Et donc ça, c'est quelque part, c'est, elles investissent dans des boîtes à impact, mais leur investissement n'est pas un investissement d'impact.
Oui.
Ce qu'il faut, si on veut vraiment changer les choses, c'est donner la possibilité à des gens qui ont des idées, qui veulent changer, de le faire. Et pour ça, il faut les aider au départ. Il ne faut pas les aider quand ils vont bien, il faut les aider quand ils sont seuls, et il faut les aider quand ils ont besoin d'aide.
Évidemment, oui. Voilà.
Ouais,
évidemment.
Mais aujourd'hui, le secteur... en fait, qui finance les activités, les sociétés, les startups, est tellement structuré que les boîtes passent énormément de temps à chercher de l'argent. Entre 30 à 50% du temps d'un entrepreneur est dédié pour essayer de lever de l'argent au lieu de se focaliser sur la survie de sa société.
Oui.
Et donc, nous, notre objectif, c'est très modestement d'essayer de réduire ce temps afin qu'ils puissent se concentrer sur leur boîte et qu'ils puissent essayer de la développer au maximum.
Oui. Alors vous, quelles entreprises aidez-vous? Quelles startups aidez-vous?
Alors moi, j'ai différentes casquettes. Je suis en partenariat avec une non-profit company en Afrique du Sud qui s'appelle Ocean Hub Africa, qui fait un travail exceptionnel, qui fait deux cohortes par an, qui sélectionne 6 startups et qui vont essayer à ce moment-là de les incuber, de les aider, de pallier à leurs différents en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses, de pallier à leurs faiblesses pour les préparer au mieux pour qu'elles soient susceptibles de lever de l'argent.
Oui. Voilà. Quand on parle d'investir dans des startups, ça représente quel budget pour aider?
Aujourd'hui, la plupart des startups en early stage cherchent 100-150 000 euros. Je suis conseiller stratégique dans le premier groupement de business angels en France qui s'appelle We Like Startup. Et il y a des gens qui mettent des tickets de 1000 ou de 2000 euros. Vous le faites petitement. Oui, et c'est d'ailleurs un des problèmes. C'est que les gens aujourd'hui ne savent pas qu'ils peuvent le faire. On s'imagine que c'est très compliqué, que c'est très technique. Non, pas du tout.
Mais alors moi, je veux investir 1500 euros dans une startup qui a vocation à aider les océans. Comment je fais?
Ah bah alors, aujourd'hui, par exemple, vous pouvez aller prendre contact avec We Like Startup et vous dire, moi, j'aimerais être référencé en tant qu'investisseur potentiel. Et à ce moment-là, ils vont pousser vers vous des dossiers. Et s'il y en a un qui vous intéresse à ce moment-là, vous pourrez dire, bah, je suis intéressé pour investir. Parallèlement, nous, on est en train de monter la même structure que ce qui est monté en Afrique du Sud. On est en train de monter la même structure en Europe. Donc, on a vocation à aider les startups en Europe, et puis on a vocation aussi à essayer de les accompagner plus longtemps, jusqu'au moment où elles ont vraiment atteint ce qu'on appelle la série A, c'est-à-dire le moment où elles sont rentables et elles ont plus de problèmes de lendemain.
Oui, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de start-up que vous êtes en train d'aider, les difficultés qu'elle a rencontrées, est-ce que vous avez pu lui apporter?
Bien sûr, bien sûr. Bah, alors par exemple, je viens d'investir à titre personnel dans une société qui s'appelle Apnée Swimwear, qui fait des maillots de bain avec du plastique qui est récupéré par les pêcheurs en Méditerranée.
Oui.
Voilà, donc ils ont commencé avec des maillots de bain, maintenant on commence à faire des coupe-vent et on a vocation à faire, faire plein d'autres choses. Donc là, moi je suis intervenu en tant qu'investisseur. J'ai essayé de donner des conseils, ils m'ont demandé de faire partie de leur conseil stratégique, donc j'ai évidemment accepté, j'en suis ravi. Et maintenant, je vais essayer d'aider l'entreprise et sa fondatrice à arriver aux étapes d'après, c'est-à-dire à faire grossir la marque et à essayer de se faire connaître.
Donc là, on peut déjà les acheter,
ces produits. On peut déjà les acheter, bien sûr, sur leur site Apnée Swimwear, tout à fait.
Oui, oui. Ouais. Quel est l'avantage de ce matériau? Il y a un avantage ou pas?
Il y a un double avantage. Le premier, c'est que l'industrie vestimentaire est une des industries qui pollue le plus au monde. Et le deuxième, c'est que les pêcheurs, avant, quand ils pêchaient du plastique, ils le rejetaient à la mer.
Ah,
maintenant, ils le gardent parce qu'ils peuvent le vendre.
Ah oui, d'accord.
Et donc, ils le vendent, il est recyclé. Et derrière, après, on peut en faire des maillots de bain, des coupe-vent, des vêtements.
Oui, parce qu'ils ne vont pas le ramasser pour le bien-être de l'océan.
Ils le ramassent. Sinon, ils ne le ramassent pas, ils le rejettent. Ouais, donc d'un seul coup, ça devient un nouveau business model pour eux, en fait.
Ah ouais, donc c'est très intéressant.
Tout le monde y gagne, bien sûr.
Il faut développer ce type de produit, effectivement. Ouais. Un autre exemple, peut-être ?
Oui, bien sûr. On a aussi investi une des sociétés qui a été incubée par Ocean Hub Africa, et une société qui fait des élevages de mouches pour nourrir les poissons des fermes aquacoles. Et donc, ils ont développé une technologie très, très innovante qui permet vraiment de le faire de la manière la plus efficace possible. Et la boîte est en vraiment forte croissance parce qu'il y a un besoin qui est très important et on est très fiers de pouvoir aider, les aider. Quoi.
Oui, oui. Alors concrètement, ça marche comment ? Ces larves
Les larves sont élevées dans un container et après la farine en fait de ces larves, les larves sont broyées, après la farine est donnée directement au poisson.
Oui, oui.
Donc, quand vous avez un saumon, normalement, il essaie d'attraper, d'ailleurs on pêche à la mouche, on dit. Donc c'est pas pour un poisson manger des insectes, c'est pas quelque chose d'étrange.
Bien sûr.
On n'est pas en train de casser une chaîne alimentaire ou d'en recréer une artificiellement.
Oui, c'est quelque chose qui pourrait se développer ça sur grande échelle.
C'est quelque chose qui pourrait se développer, oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler d'alimentation de ce type pour les humains. Je pense pas qu'on y est encore parce que nous on a quand même psychologiquement on va avoir du mal à faire ça. Mais pour les animaux c'est une évidence absolue.
Oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez trouver comme start-up et que vous ne trouvez pas ?
Oh, y a énormément. Alors, c'est un des grands bonheurs que j'ai, c'est que je passe mon temps à rencontrer des gens qui ont des belles idées, qui ont une vision positive de l'avenir. Je pense que la génération avant la mienne a énormément innové, mais que cette innovation a créé beaucoup d'externalités négatives. Et nous, là, on se retrouve dans une position où il va falloir qu'on innove pour compenser ces externalités négatives.
Oui.
Et c'est le grand challenge de notre époque. Et Dieu merci, il y a énormément de chercheurs, même des étudiants, des gens qui n'ont pas de formation, tous horizons. Et ils viennent et ils ont envie de changer et ils ont juste besoin d'aide. Et donc, c'est ces gens-là qui sont les héros de demain. Et nous, on est simplement en fait, des passeurs de savoir. Et on est simplement des gens qui sont là pour essayer de les aider pour arriver à donner corps à leurs rêves.
Oui, mais justement, Valérie Bollier, beaucoup de gens se lancent dans la sauvegarde de la planète. Il y a même un business, on a l'impression qu'il y a un business autour de ça. Est-ce qu'il n'y a pas des start-up qui ne jouent pas vraiment le jeu, qui font ça pour vendre ? Il n'y a pas des choses dont on doit se méfier, nous, consommateurs ?
Bien sûr, il y a un positionnement marketing évident de la part de certains acteurs qui se disent qu'il y a une opportunité de marché. Et c'est pour ça, par exemple, qu'une des grandes forces d'OHA, c'est d'avoir un board qui est composé de chercheurs, de scientifiques, de gens ultra compétents qui vont regarder les start-up et qui vont dire « Ok, celle-là, elle peut vous donner l'impression d'être vertueuse, mais en réalité, elle ne l'est pas. » Et on voit bien avec les voitures électriques, on commence à se dire ça coûte plus cher en CO2. Et derrière, on ne sait pas comment recycler les batteries.
Donc ce n'est pas une bonne idée pour vous ?
En France, c'est une bonne idée parce qu'on a le nucléaire qui fait que l'énergie... on ne produit pas trop de CO2 quand on consomme de l'électricité. Mais en Allemagne, par exemple, l'électricité, on a une voiture électrique, mais derrière, il sert du charbon pour faire l'électricité. Donc, c'est une aberration totale.
Oui, oui. Il y a d'autres idées comme ça ?
Il y en a plein d'autres. Mais j'ai la chance, je ne peux pas trop en parler, mais de faire partie d'un projet qui va voir le jour dans quelques jours, qui est lancé par Pulse, qui est une filiale du groupe SOS. Et qui a pour vocation justement d'aider toutes les sociétés qui vont avoir un impact. Et là, c'est pas seulement de l'impact environnemental, mais c'est aussi social.
Oui, là, la voiture électrique, on parle de... Il n'y a pas de volonté de ne pas bien faire, mais il y a peut-être des startups qui ont cette volonté de ne pas jouer le jeu et pour vendre. Vous avez des pistes quelle startup il ne faudrait pas investir ?
Je me sens pas dans une position de donner un nom et de juger, mais oui, il y a des gens qui se servent de ça comme d'un alibi, des grandes corporations qui se servent de, qui disent que vous pouvez acheter ce produit-là parce qu'il est fait à 20% à base de plastique recyclé, etc.
C'est pas suffisant 20%.
C'est absolument pas suffisant. Ils disent que dans 5 ans ils feront 100% alors qu'on sait très bien que c'est pas possible. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle du greenwashing, du bluewashing. Ça existe évidemment. Et faut pas s'empêcher de faire des choses parce qu'il y a des gens qui font ça.
Bien sûr.
Au contraire. Je pense pense qu'on arrive dans un monde où la bienveillance, et c'est ce que vous faites ici, devient une nécessité absolue. Et qu'il y a des gens qui jusqu'à maintenant étaient intéressés, le retour était essentiellement financier. Mais demain, ils vont commencer à s'intéresser à d'autres choses. Et ils vont commencer à se dire, qu'est-ce que pour nos enfants, dans quoi on investit ?
Oui, oui. Justement, qu'est-ce que vous conseillez ? Vous conseillez d'investir dans les startups, ces porteurs dans ces startups à impact positif sur l'environnement ?
Alors oui, le secteur va être très porteur et c'est pour ça que le secteur de la finance commence à regarder ça avec.
Ça l'est déjà ou ça va l'être ?
Ça l'est chaque jour de plus en plus. Ils investissent que dans pas dans des startups en early stage, c'est-à-dire en début. Mais ils investissent en fin de chaîne alimentaire.
Oui, quand les là, on est certain que ça va fonctionner.
Voilà, encore une fois, les sociétés sont dans une situation beaucoup plus confortable. C'est une prise de risque énorme d'investir dans une société dont la probabilité de survie est très faible.
Oui.
Mais si vous voulez faire une différence, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Il y a un proverbe anglais qui dit « put your money where your mouth is ». Donc, qui est de dire qu'en fait, il faut un peu aligner ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et c'est clairement ça. En investissant dans une start-up, on donne à cette start-up la possibilité de faire quelque chose de positif. Alors que si on attend que la société ait déjà atteint son point mort, soit déjà rentable, à ce moment-là, c'est le marché qui décide de ce qui va faire le monde de demain.
Oui, oui.
Et donc, pour l'impact, c'est forcément Business Angels en early stage.
Au niveau français, on est bien coté dans ces startups à impact positif pour l'espace
côté,
maritime.
On a l'écosystème des startups français, un écosystème qui est très développé. Et on a des très belles écoles d'ingénieurs en France. On a des gens qui sont très sensibilisés au sujet. Et moi, à chaque fois que je passe en France, je suis toujours étonné de voir la qualité de l'engagement et c'est très, voilà, c'est très rassurant pour la suite.
Mais oui, puisque vous habitez Malte, je le rappelle. À Malte, ça se passe comment ?
À Malte, ça se passe, c'est un petit pays, 450 000 habitants. Ils se rendent compte qu'ils sont entourés par la mer. C'est le seul pays d'Europe qui n'est entouré que par la mer. Donc, ils se rendent compte qu'ils sont un petit peu obligés de protéger leur propre écosystème. Maintenant, leurs moyens sont beaucoup plus limités, évidemment. Donc,
oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quels conseils vous avez envie de donner aux startups qui se lancent dans cet impact positif ?
D'aller chercher des gens qui ont de l'expérience, d'aller les solliciter sur LinkedIn, dans des conférences, partout, de leur demander de l'aide, de leur demander comment ils doivent faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont déjà passés, qui ont déjà monté des sociétés et qui ont un savoir-faire. Alors, il y a une courbe d'apprentissage qui est assez longue quand on monte une société. Et de s'entourer de gens qui vont pouvoir les aider à transformer leurs très très belles idées en un grand succès pour demain.
Oui, oui. Comment on vous contacte, vous, par exemple ?
Sur LinkedIn, je réponds toujours.
Valérie Bollier, avec un Y.
Avec un Y,
voilà.
Tout à fait, exactement.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le sujet, cet impact positif sur le domaine maritime, tout sur l'écosystème maritime ?
Je pense qu'on est vraiment au début d'une ère. Encore une fois, on est dans une situation qui est plus tenable aujourd'hui. Sans être un passionné de la mer, quand vous voyez vos enfants qui vont se baigner, que vous voyez des morceaux de plastique à côté, vous devez prendre conscience qu'on doit changer les choses. Donc nous, en tant que consommateurs, on a 1000 choses à changer. Pour qu'il n'y ait plus de plastique dans la mer, il faut qu'on arrête d'en consommer.
Oui.
Donc, encore une fois, ce sont des actes citoyens. C'est quand j'achète quelque chose, est-ce qu'il y a beaucoup de plastique ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de plastique ? Est-ce que j'accepte de prendre un sac ou est-ce que j'essaie de me passer du sac en plastique quand j'achète quelque chose ?
On voit la différence, justement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au niveau marin, on voit la différence depuis qu'on n'utilise plus en France. C'est infinitésimal.
Oui, vous savez, quand on coupe les moteurs d'un bateau, il y a ce qu'on appelle l'air, c'est-à-dire que le bateau continue à avancer pendant des kilomètres. Et là, pendant des années, on jetait les choses dans la mer, on n'a pas vu l'impact. Et maintenant qu'on le voit, avant qu'on puisse voir un effet positif, il faudra. Et puis en plus, il y a eu quelques catastrophes avec les grosses pluies dans la Roya, par exemple. Ça a eu un impact énorme sur la Méditerranée. Enfin voilà, il y a énormément à faire avant qu'on puisse commencer à retrouver le paradis qu'a été la Méditerranée de mon enfance.
Oui, oui, oui. Valérie Bollier, un dernier mot avant de terminer ?
Bah écoutez, je suis ravi d'être là. Je tenais à vous féliciter pour ce que vous faites. On parle beaucoup dans les films, au cinéma, de héros, etc. Mais je pense que vous parlez des vrais héros, ceux du quotidien, ceux qui se battent, ceux qui aident les autres. Et c'est magnifique ce que vous faites. Et je tenais à vous féliciter.
Merci. Merci. Nous sommes sur Vivre FM. Merci Valérie Bollier. Merci de votre travail pour l'impact positif sur l'écosystème marin. Je rappelle que vous êtes Business Angels. C'est un mot qui a une mauvaise connotation un petit peu. Hein, et pourtant, vous faites du bien.
Parce que c'est une sonorité anglo-saxonne, évidemment.
C'est
mais,
ça.
Mais après... Après, il y a Angel dedans. Donc c'est
oui, il y a Ange, et oui.
Si on le traduit tout de suite, ça a l'air un peu plus sympathique déjà.
Exactement. Merci Valérie Bollier.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.